Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Sébastien!
Salut!
Je suis content de te recevoir dans ce nouvel épisode de Design Journeys parce que, comme je te le disais en off avant qu'on commence à enregistrer, tu es le deuxième brand designer à venir dans l'émission et le premier c'était Loïc de Malte qui est venu il y a plus d'un an et demi. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin reparler de brand dans cette émission. Et du coup, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Sébastien, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Très bien. Eh bien, donc, je m'appelle Sébastien Navizet. J'ai 31 ans. Ça fait maintenant 10 ans, ou 11 même, que je suis designer. J'ai fait différents métiers du design. J'ai commencé comme simple graphiste, puis après j'ai été dans le monde de la publicité en tant que directeur artistique, comme ils disent là-bas, un titre qui en jette, mais qui est ni vraiment de la direction, ni vraiment de l'art. Et puis je me suis orienté vers le web petit à petit, et ça fait désormais 5 ans que je suis chez Algolia.
Super, on va revenir sur tout ça. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'en es venu à faire du design ?
Alors, le design, ça a vraiment toujours été une passion dans ma vie, principalement les arts graphiques. Notamment, dès que j'ai eu mon premier ordinateur, l'ordinateur de la maison à 12-13 ans, j'ai téléchargé Photoshop sur Casa ou Emule à l'époque. Et très vite, je me suis passionné de retouches photo et j'ai commencé à en faire des choses un peu plus visuelles. J'avais mon Skyblog à l'époque, avec vraiment du graphisme. Ouais, ça balance les dos. Allez pas chercher ça sur le web parce qu'il y est encore en ligne. Et donc, ça a toujours été ma grande passion, mais c'était pour moi qu'une passion. Et donc, j'ai fait, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, un bac S. Puis après, j'avais des bonnes notes. Donc, je suis parti en études scientifiques. Et lorsque je passais un concours dans une grande école, je me suis retrouvé face à une question, je me rappelle très bien, où il fallait que je calcule avec les équations de Maxwell les mouvements d'une sphère magnétique dans une bobine de cuivre.
C'est bon, tu m'as perdu.
Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça de toute ta vie, c'est horrible. Tu gagneras bien ta vie, mais tu vas mourir d'ennui. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes ? Le design graphique. Et les seuls métiers qu'il y avait à l'époque autour de ça, en fait, c'était la pub. Donc je me suis réorienté et j'ai fait une école de publicité pendant 3 ans. Donc je suis venu dans le design comme ça.
Très bien. Et c'est là où j'ai vu du coup que tu as commencé à bosser, parce que comme tu le disais tout à l'heure, en tant que directeur artistique, c'est ça ?
Ouais.
Pour quelle raison ce métier plutôt qu'un autre ? C'est le seul qui était disponible, on va dire, en tant que...
Oui, là, on se parle d'une époque, on était en 2010 à peu près. Et donc, le web en était vraiment assez balbutiement. Le premier iPhone était sorti depuis 2 ans, mais personne n'en avait, il n'y avait pas d'appli. Donc en fait, les seuls métiers qu'il y avait autour du graphisme visuel, c'était ça. C'était soit travailler dans une maison d'édition pour faire des couvertures de livres, soit être au service du capitalisme via ses aspects visuels. Et donc c'est comme ça que je suis entré dans la pub, ouais.
Tu faisais quoi concrètement dans ton métier de... J'ai noté, t'as d'abord commencé en tant que stagiaire chez Publicis, ensuite t'as été art directeur pendant quelques temps chez Les Gros Mots.
Ouais.
Et après, t'es très vite devenu en fait directeur artistique et UX designer dans une autre boîte. Comment t'expliques ce passage de directeur artistique, ensuite un peu du UX?
Ouais.
Comment
ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte que tu mentionnes, qui s'appelle Devarium, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est une boîte qui, à l'époque, on a fondée avec un copain.
D'accord.
On était 3 associés. Et donc, c'était le début, vraiment, on va dire le vrai début du web, où on commençait à parler de responsive et ces choses-là. C'était ces enjeux-là. Et donc, on a décidé de se lancer dans notre propre business et de faire des sites web pour des petites entreprises avec du WordPress principalement. On utilisait des thèmes, puis on essayait de les modifier pour que ça corresponde aux besoins de nos clients. Donc, on travaillait vraiment avec des PME locales. Les premiers trucs qu'on a dû faire, c'était l'auto-école du coin, le resto du coin, c'était vraiment ça. Donc en fait, au début, je m'étais mis en tant que graphiste. Et après, j'ai retravaillé mon profil LinkedIn quelques années plus tard lorsqu'il fallait que je cherche un nouveau travail. Et c'est là que j'ai changé, que j'ai mis UX designer parce que ça y est, ça avait un nom. Mais à l'époque où je l'ai fait, ça n'existait pas.
Mais c'est quand même ce que tu faisais. Bon, ouais. Par essence, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'agence à travailler pour toi, faire... qu'on appelle de l'UX design aujourd'hui, mm-hmm. mais qu'est-ce qui fait que tu as changé de voie, on va dire ?
Y a un truc... Enfin, déjà, la première chose qui s'est passée, c'était du point de vue humain. Parce que les agences, et particulièrement dans la pub, je dirais, ont des défauts sur le traitement de leurs employés qu'on connaît ou qu'on imagine tous. Et je ne me retrouvais plus dans ces valeurs, à la 99 francs, etc. Et donc le web commence à émerger et donc j'y ai vu une opportunité plus qu'une passion. À la base, c'était une opportunité, surtout qu'à l'époque c'était pas forcément des choses très sexy qu'on pouvait faire, mais on sentait qu'il y avait un sujet à gratter et que ça allait vraiment être l'avenir, et donc c'est un train que j'ai pas voulu rater. Donc c'est comme ça que je me suis engagé là-dedans, et petit à petit, en quelques années, WordPress a commencé à faire des choses super, et là ça m'a vraiment développé mon intérêt vers tous ces outils de création web, webmaster, graphiste web, comme on disait à l'époque.
Et alors, comment t'expliques le fait qu'après avoir travaillé dans tout ça, tu décides de rejoindre Algolia en tant que brand designer ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, entre cette entreprise, donc quand on a arrêté notre collaboration, je me suis remis en freelance. Du coup, à ce moment-là, il a fallu un petit peu, on va dire, me distinguer de la masse des autres graphistes qui étaient sur le marché et qui étaient très compétents, mais qui agissaient un peu comme des hommes à tout faire. Et donc, j'ai voulu à ce moment-là me positionner, on va dire, avec une certaine expertise pour être consulté plus que d'être un exécutant.
D'accord.
À l'époque, c'était l'émergence de Behance. Et donc Behance a commencé à avoir en ligne beaucoup de projets où c'était des longs scrolls où on voyait tout le développement d'un projet avec l'expression d'une marque sur tous ses supports, et ça j'étais fasciné par ça. Et je me suis dit c'est ce que je veux faire, et je me suis mis brand designer en freelance. Et suite à ça, ce copain du coup qui est développeur avec qui on avait monté notre agence web entre temps a rejoint Algolia, et il s'est avéré que très tôt dans le développement de la startup Algolia, ils ont identifié le besoin de créer une marque, et j'ai eu cette opportunité comme ça. On m'a référé, j'ai passé tous les entretiens et j'ai été pris, et du coup je me suis mis à fond dans le design de marque chez Algolia.
D'accord, alors il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est quand tu étais freelance. C'est cette volonté de travailler vraiment sur du brand. Comment tu fais quand tu as été graphic designer et UX designer pour te réorienter, si on peut dire ça, je pense, te réorienter vers de la brand? Comment tu mets en avant cette expertise que tu n'as pas forcément fait au quotidien, ou un petit peu, mais qui était une des cordes à ton arc? Comment tu fais pour te réorienter vraiment sur ce secteur-là?
Alors en fait, la manière dont je vois brand designer, c'est vraiment d'être plus, on va dire, un designer généraliste. T'es pas expert forcément dans un domaine. Et donc à l'époque, je bénéficiais de mon expérience en agence de pub, où j'avais eu pas mal de gros clients connus internationalement dans le domaine de la food, de l'automobile, de l'édition, des ONG, des choses comme ça. Donc j'avais déjà touché du doigt pas mal de marques, même si j'en étais pas forcément les créateurs, mais je les avais entretenus, j'y avais contribué. Et puis comme le web émergeait et que c'est devenu de plus en plus un support essentiel de la communication, c'était pour moi ni plus ni moins qu'un support parmi les autres.
D'accord.
Donc quand tu deviens designer, en fait tu designes toute la marque, du logo aux couleurs aux fontes, jusqu'aux flyers, aux cartes de visite et au site web. Donc c'était plus ce côté généraliste, et je bénéficiais de mes expériences passées et en les mettant ensemble, c'est comme ça que je vais commencer à pouvoir me prétendre brand designer.
Ok. Du coup, tu arrives chez Algolia en octobre 2016. On en a déjà parlé dans le podcast d'Algolia puisque j'ai reçu Marine Diaz pour parler de la recherche utilisateur chez Algolia. Pour remettre rapidement, c'est une société qui a été fondée en 2012 et qui permet à n'importe quelle entreprise d'ajouter une recherche sur son site. Est-ce que j'ai besoin de dire plus?
J'écoutais exactement cet extrait-là dans le métro avant d'arriver et je me suis dit, s'il me repose la question, je vais dire, maintenant c'est de la search, mais c'est aussi de la recommandation. C'est beaucoup de parcours utilisateur. C'est plus juste une barre de recherche, mais c'est, on va vous guider pour trouver ce que vous aimez sans que vous ayez à le chercher.
Je pense que tu dis que c'est exactement la même chose que ce que tu as entendu, parce que c'est exactement un copier-coller de ce que j'avais, de ma préparation avec Marine, tu vois. Donc, du coup, c'est cool.
Tu capitalises, ouais.
Exactement. Je réutilise un design system de questions. Du coup, tu arrives en tant que brand designer. C'est quoi ton rôle? Tu arrives, tu nous as dit, ils ont besoin de créer une marque, d'établir une marque, puisque Algolia existait déjà. Ça veut dire quoi?
Alors, dans ce cas très précis, je suis arrivé donc dans une entreprise qui était quand même assez jeune, mais pas trop, parce que ça faisait 4 ans que ça existait, mais ça y est, ça commençait à décoller fort. On était 40 à l'époque, et donc il y avait déjà un logo qui avait été fait par un graphiste, il y avait quelques pages web, il y avait quelques supports de com, mais rien de tout ça était unifié. Donc, un des premiers travaux que j'ai dû faire en arrivant chez Algolia, ça a été de faire, on va dire, un espèce d'état des lieux de tous les supports de communication qui étaient en place et d'unifier tout ça. Donc, c'est passé par, on va dire, un affinage du logo pour qu'il corresponde quand même mieux à certaines normes, non seulement techniques, mais aussi esthétiques. Et une fois qu'on avait cette base de logo, on s'est mis d'accord pour établir une charte graphique qu'on a fait grandir. Je dis on parce que en tant que brand designer, en fait, tu travailles avec beaucoup d'équipes, t'es pas le seul. Et donc, on a remis à plat toutes les pages du site web, on s'est fait une vraie identité. Et à l'époque, il y avait aussi ce travail de fond de se dire, on reste quand même pour répondre à des objectifs marketing, donc on fait pas une marque n'importe comment. Et une des grosses questions, c'était quel est le marché sur lequel on veut s'inscrire? Comment est-ce qu'on veut être perçu? Et à l'époque, l'entreprise qui avait vraiment le vent en poupe en termes de site web branding, c'était Stripe. Donc, on a commencé par faire, on va dire, un ersatz à notre sauce de Stripe pour être perçu comme un acteur du même acabit. Et ça a assez bien marché. En un an et demi, la perception d'Algolia, parce qu'on parle vraiment de perception, avait déjà bien augmenté. On n'était plus vu comme un truc de garage, mais comme une entreprise établie qui était en train de commencer à grossir.
Est-ce qu'on peut parler justement de cette partie-là, de refonte du logo, de refonte de charte graphique? Ça m'intéresse parce que, en fait, beaucoup d'entreprises y sont confrontées, que ce soit des startups ou des grosses boîtes. Et toi, tu arrives, tu dis, je regarde, j'essaie de faire un travail de cohérence. Super. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais ensuite pour te rendre compte que... Une fois que tu t'es rendu compte qu'il y a des problèmes de cohérence, qu'il y a des inconsistances dans le design, comment tu fais pour embarquer les gens avec toi pour te dire ça va pas? Et ensuite, comment tu fais pour accompagner les gens dans tes idées de dire on va faire un logo et puis on va refaire la charte graphique? Comment tu embarques les gens?
C'est effectivement une super bonne question parce que c'est quelque chose de très important. La première chose qui se passe, parce qu'il y a plusieurs étapes quand on fait une refonte, ça va être déjà de soit comprendre un peu ce qu'on fait, essayer de ne pas partir dans tous les sens. Et une fois qu'on est fier des efforts qu'on a fournis, il faut les présenter au comité de direction, l'équipe exec.
Attends, avant d'aller là, ça veut dire quoi une fois que tu réfléchis, tu proposes des choses, tu es heureux de ce que tu fais? Quoi en fait?
Tu regardes un peu ce qui se fait sur le web et de partout. Tu fais donc, comme je te disais, un audit de tous les supports de communication. Fais plusieurs propositions basées sur tes mood boards et les différents supports que tu as identifiés et tu isoles des pistes. Il faut déjà un branding qui marche, c'est un branding qui va être déclinable. C'est-à-dire que tu as réussi à trouver des astuces graphiques, ce que l'on appelle des gimmicks, qui soient en lien avec ton logo ou les fondements de ton identité, les couleurs, les fontes, que tu vas pouvoir réutiliser sur tout type de support pour que ce support soit immédiatement identifiable comme appartenant à ta marque. Et aussi, un truc qui est très important, c'est généralement, dans cette phase, on va avoir tendance à rajouter des choses. Et donc après, il faut repasser par une phase où on va enlever des choses. Et c'est le fameux, le bon design, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et une fois qu'on a une piste où on est capable de justifier le moindre des éléments graphiques qui sont dessus parce que ça a un sens par rapport à l'histoire de marque qu'on veut raconter, sans bullshiter, et bien là, moi j'estime qu'on a une piste intéressante à proposer donc à l'équipe exécutive.
Et cette réflexion, tu l'as fait avec qui ? Tu l'as fait seul ? Tu l'as fait avec deux designers ? Tu l'as fait avec le marketing ?
Alors, je l'ai, on va dire, mené seul, mais il faut absolument éviter l'effet tunnel. Donc, à tout moment, moi, j'ai toujours été vraiment dans la culture du feedback, à demander des avis à beaucoup de gens, de toutes les équipes confondues. À l'époque, c'était vraiment ça, la culture d'Algolia, les sales, les devs, les execs, tout le monde était mélangé. Donc, en fait, je demandais l'avis de tout le monde, parce qu'il est important de faire une entreprise qui représente ses employés, surtout qu'on n'était pas beaucoup à l'époque. Un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ton branding ne doit pas dire ce que tu fais, ni comment tu le fais, mais qui tu es. C'est une signature. Donc, c'était important que les employés s'y retrouvent déjà. Et c'est pour ça à l'époque j'avais dit cette phrase parce qu'on me disait souvent non mais pourquoi tu me demandes mon avis à moi, je suis pas designer, mais je design pas pour les designers, en fait je design pour tout le monde, donc ton avis compte, et puis tout le monde est un designer en fait, donc et ça c'est une phrase qui m'a beaucoup suivi, everyone is a designer. Alors maintenant je leur dis oui, mais pas forcément un bon designer.
Ouais, justement, parce que tu parles d'un logo et si tout le monde a un avis, tu vois, tout le monde a un avis sur une typographie, sur une couleur, sur une forme. C'est marrant que tu dises tu vas demander à tout le monde et tout le monde est un designer, alors que y a des gens qui pourront dire moi j'aime pas cette couleur, moi j'aime pas cette forme. Comment tu fais pour justement que ça ressemble à tout le monde, mais en même temps que ça ressemble pas à n'importe quoi non plus parce que tout le monde a donné son avis?
Oui, l'effet Frankenstein qu'on veut éviter absolument. Alors ouais, dans ça c'est un truc vraiment que j'ai appris chez Algolia, de, on va dire un peu enrichir ma culture du feedback. Par définition, je dis oui à tout ce qu'on me dit. Je considère que tout feedback est bon à prendre. Ensuite, moi, en ma qualité de designer, je vais sélectionner les feedbacks que je décide d'écouter de ceux que je décide de mettre de côté. Donc, j'écoute tout le monde parce que c'est très important de ne se fermer à aucun avis. Mais ça ne veut pas dire qu'en écoutant tous les feedbacks, on va forcément tous les mettre en œuvre. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu beaucoup évangéliser au début que j'étais chez Algolia. De même que lorsque tu me formules un feedback, il faut absolument que tu mettes de côté tes goûts personnels qui ne sont pas forcément pertinent dans notre situation, et essayer au maximum de backer ton feedback par de la data ou au moins une raison étayée, et pas juste j'aime pas ce bleu.
Alors c'est intéressant parce que tu vois, ça c'est quelque chose que je dis beaucoup aux équipes quand on fait des reviews sur du product design, c'est vraiment expliquer pourquoi ça va pas, mais j'ai l'impression que sur une marque c'est moins tangible, tu vois, une marque c'est un logo et c'est pas forcément... Le bouton ou le mot ne véhicule pas la bonne idée. Là, c'est quand même, tu dis par exemple, j'aime pas le bleu, mais comment tu fais pour justement, la marque, c'est quand même une couleur, un logo, une tagline, c'est beaucoup plus émotionnel.
Alors oui, c'est émotionnel. Oui, c'est un peu plus intangible. Il y a toujours une part, et je me bats pour qu'on garde cette part dans nos métiers où tout est de plus en plus data-driven. Il faut garder quand même une part d'émotionnel inquantifiable. Enfin, inquantifiable, justement, c'est pas tout à fait le cas. On peut quand même faire de la user research, faire des focus groups, donc des questionnements avec des petits groupes, faire du quantitatif aussi sur le web. Pour ça, le web, c'est merveilleux. Et recueillir le feedback de nos utilisateurs en ayant au préalable bien défini nos personas. Et de eux, c'est acceptable d'avoir un j'aime pas, puisqu'après il devient quantifiable, donc un peu statistique. Donc c'est quand même quelque chose qui est quantifiable, même si c'est effectivement, on va dire, moins rationnel que certains autres trucs qu'on a l'habitude de, surtout en product design, qui est un milieu très rationalisé.
Oui, c'est pour ça que je suis content aussi de parler avec toi, parce que c'est le product design, c'est quand même, il y a le mot design, mais c'est quand même, on va dire, je ne sais pas si on peut dire jusqu'à très scientifique, mais en tout cas, tu essayes de backer le plus possible tes choix. Là où je trouve que la brand, c'est, même si tu essayes de backer, il y a un moment où tu ne peux pas aller plus loin parce que c'est de l'émotionnel. Et vous l'avez fait ça, par exemple, montrer ce nouveau logo en dehors d'Algolia, parce que tu parlais vraiment de le présenter en interne, mais est-ce que...
Alors, à cette phase de, quand on a le premier, on va dire, rebranding d'Algolia qu'on a fait à ce moment-là où on s'est inspiré de Stripe, non, on l'a pas fait là. On était trop jeune et puis il y avait trop de rapidité d'exécution à avoir. 2 ans plus tard, lorsqu'on a essayé de faire prendre notre marque en maturité et donc de changer le site web qui est vraiment le vaisseau amiral de la marque, là oui, on a mené quelques études sur des outils en ligne où du coup en fait on travaillait avec une équipe et on leur avait dit quel est notre persona, quels sont leurs travaux, qu'est-ce qu'ils font, et donc ils faisaient des recordings où les gens visitaient un prototype du site qui était fait sur InVision à l'époque, et ils nous disaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, ce qu'ils comprenaient pas, parce qu'on ne teste pas que le design dans ces phases-là, on teste aussi le copywriting, le wording, puisque tout ça appartient à la marque. Donc oui, on l'a fait. On l'a fait en quali, comme on dit, en focus group. Ouais.
D'accord. Du coup, dans ces deux rebranding, ça a été toujours en interne, on n'a pas passé par une agence ?
Ouais, toujours en interne. Ouais.
Pourquoi ?
Pour des raisons de budget, je dirais. on a failli faire appel à une agence externe à un moment. Pour moi, une agence externe, ça a du bon et du moins bon de travailler avec une agence externe. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un regard extérieur, plus frais. Ils ont souvent des très bonnes méthodes pour les rebrandings, qui sont super intéressantes, super cadrées, qui permettent de faire un travail plus approfondi. Les inconvénients, c'est que c'est déjà une démarche qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc en scale-up comme Algolia, on n'a pas toujours ce temps. Et l'autre inconvénient, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas experts dans ton métier et qui, du coup, ont une compréhension limitée sur plein de sujets. Et en l'occurrence, chez Algolia, sur un sujet qui est B2B assez technique, c'est compliqué d'avoir des prestataires en agence qui sont capables de comprendre profondément ce qu'on fait pour que ça se retrouve dans un branding qui, plus est, s'adresse en partie à des développeurs qui sont très exigeants en termes de précision.
Je comprends. C'est intéressant, tu vois, pour faire encore un parallèle, quand Loïc était venu, eux, ils avaient fait un rebranding, ils avaient même fait plusieurs rebrandings avec des agences, et c'était intéressant de comprendre pourquoi eux, ils avaient pris une agence, parce que tu disais être un peu challengé, avoir un regard extérieur, mais au final, ils ont aussi travaillé avec eux, et c'est très intéressant. Sur ce premier logo, quand t'as fini par faire ce travail-là, de faire ce premier logo, il se passe quoi ensuite ? T'as parlé d'un COMEX ?
Ouais, alors pour être très honnête, j'ai été très surpris parce que quand j'ai présenté le refinement, on va dire, du logo, ça faisait seulement 3 mois que j'étais chez Algolia et je l'ai présenté directement au CEO et CTO de la boîte, les deux fondeurs. Je me suis dit, voilà, je vais me prendre un gros stop, c'est mort, jamais ils vont vouloir changer ça, parce que je sortais de mes expériences de freelance où c'était très dur de faire bouger les lignes chez mes clients. Et à ma grande surprise, leur première réaction a été « Oh, c'est bien, mais t'aurais pu aller encore plus loin.
» C'est du pain béni, ça.
Et je me suis dit « Oh, j'ai vraiment choisi la bonne boîte. » C'était la science-fiction, ouais. Et à ce moment-là, en fait, ils m'ont vraiment fait comprendre que s'ils m'avaient recruté, c'était justement pour prendre ce genre d'initiative. Et donc, suite à ça, ils m'ont dit « Bah, allez, full go. On te suit, on fait ce c'est pas un rebranding finalement, c'était un premier branding. Et ils m'ont dit allez go. Et là, du coup, ça a été un peu branle-bas de combat quand même. Et tout le monde a vraiment été impliqué dans cette démarche.
C'est-à-dire ?
Bah, franchement, c'est ce que j'explique souvent. Plus une boîte grossit, plus c'est difficile de lui faire changer de logo, parce qu'il faut comprendre que c'est très cher en fait. C'est très cher parce que dessiner un logo, bon, c'est compliqué en soi, il faut que ça corresponde à des valeurs, à une orientation de l'entreprise, mais c'est pas du tout la plus difficile partie du process. Après, ce qui compte, c'est de le propager, ce logo. Il faut qu'il soit partout. Et donc, là, Total, par exemple, récemment, a changé son logo et son nom, même pour Total Energy. En seulement quelques jours, leur immeuble à La Défense était brandé du nouveau logo, c'était changé sur toutes les stations-service, tous les flyers étaient sortis, même la carte Total Access pour nettoyer sa voiture avait changé. Ça, c'est énormément d'efforts qui demandent un travail transversal. Et ça a vraiment été ça à l'époque. J'ai été beaucoup aidé par les devs, beaucoup par les sales, qui, en fait, tout le monde a mis à jour de son côté les pages web qui étaient en sa possession, les projets web qui étaient en sa possession, les sales deck pour présenter aux clients. Tout le monde avait suivi ses recommandations. On avait une Excel spreadsheet énorme avec tous les endroits où on voyait l'ancien logo apparaître, et on le mettait en nouveau. Et puis même, on avait à l'époque un Slackmoji là, qui était old logo spécialement pour ça. Mais pour y arriver, et ça reboucle avec ta question de tout à l'heure, il faut que toute la team soit onboardée là-dedans. Et ça, pour ce faire, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, bon, bah, ils soient impliqués dans la démarche. Pas qu'ils arrivent face à un rebranding qu'ils comprennent pas, où ils ont l'impression qu'on leur impose. Parce que là, on parle quand même d'une entreprise. À l'époque, on était 50, 60. Donc, c'était vraiment leur entreprise. Et donc, il faut les impliquer dans cette démarche et après aussi faire beaucoup de communication. Chez Algolia, il y a ce qu'on appelle le HoloLens toutes les semaines. Maintenant, c'est toutes les deux semaines, mais à l'époque, c'était toutes les semaines. Où pendant une heure, tous les employés se regroupaient, qu'on soit à San Francisco, à Paris, etc. Tout le monde était en même temps dans la même réunion. Et donc, là, j'ai fait beaucoup de présentations pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà comment on va le faire, voilà pourquoi on change le logo, voilà pourquoi on va sur ces couleurs, voilà. Je justifiais tout parce que je savais que je m'adressais à une cible de développeur, donc il fallait pas passer pour l'artiste. D'ailleurs, voilà, je n'étais pas artiste, j'étais designer. Et donc ça passe par plein de petites choses. On a une charte colorimétrique, on donne des noms aux couleurs avec des consonances geek, comme ça les gens l'adoptent, comme ça ça crée un langage, comme ça les gens ils parlent du Nova Gray ou du Cosmos Black au lieu de parler de hashtag je sais pas quelle référence hexadécimale. Donc tout ça, ça aide à, on va dire, le fait que les gens s'approprient la marque en interne pour ensuite pouvoir l'exprimer en externe.
C'est hyper intéressant comme façon de démocratiser justement la marque. Là, on parle beaucoup d'un logo depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on appelle le logo la marque, mais il y a d'autres atouts, il y a d'autres éléments qui sont la typographie, etc. C'est des choses aussi sur lesquelles tu as travaillé, où là, c'était vraiment l'objectif, c'était juste on essaye de faire un logo un peu plus professionnel qu'avant, et le reste, on verra plus tard.
Alors, le logo, en fait, je dis souvent logo parce que c'est vrai que quand j'en parle à ma mère ou aux autres gens, c'est l'image qu'ils ont du branding. Souvent, ce que je dis, c'est que le logo, c'est la couverture du livre. C'est ce qui va donner envie ou c'est la première chose qu'on va voir, mais c'est pas du tout l'histoire. Et c'est le branding, c'est tout le reste de l'histoire. Donc, effectivement, le branding, il existe de partout et surtout dans la tête des utilisateurs, des clients ou des prospects. C'est vraiment un concept mental plus qu'une réalité. Là, on parle depuis tout à l'heure de l'expression graphique et visuelle du branding, mais une image de marque, ça passe aussi par une gamme de prix, ça passe par est-ce que la marque est sympathique ou sérieuse, ça passe par toutes ces choses-là. Là, on a l'impression d'interagir avec une marque comme on interagit avec une personne. Le branding, c'est une personnalité. Et donc, en fait, c'est... Pour reboucler sur des sujets plus proches du product design, c'est finalement petit à petit mettre en place un design system autour de sa marque et essayer de documenter au maximum et essayer de réutiliser ses composants et de la même manière. Avec le temps, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a essayé de récupérer toutes les bonnes pratiques du product design, qui était quand même plus développé que le brand design à cette époque-là, pour les mettre dans le brand design. Donc, on a notre design system brand marketing, on a nos atomes, nos couleurs, nos fontes, notre logo. Puis après, on a fait nos composants par-dessus, donc que ce soit pour le site web ou pour des ads sur les réseaux sociaux ou pour les flyers ou ce qu'on appelle le booth design, le design de stand dans les salons. On construit petit à petit des éléments. Et y a toujours une exception, donc on essaie de limiter les exceptions ou alors on s'en inspire pour faire un nouveau composant qui sera utilisé à l'avenir. Ça me fait penser au fait aussi que pour moi le branding c'est une langue vivante. Souvent quand je travaille avec des freelances ou qu'il y a des designers qui rejoignent l'équipe, ils me demandent où est la charte graphique. On en a une petite, mais elle est très simple, et je leur dis à partir de maintenant c'est vous la charte graphique. Je veux pas qu'on s'enterre dans des codes, surtout dans les startups comme nous, au bout de 6 mois tout est démodé, faut qu'on évolue avec son temps. Donc en fait c'est en constante évolution ce branding aussi, quoi.
Si tu veux bien, on en reparlera tout à l'heure. Parce qu'avant, j'aimerais bien te parler de quelque chose qui est que, au bout de 2 ans, en tant que brand designer, tu changes de métier chez Algolia, tu deviens creative director. Qu'est-ce que ça change pour toi ?
Techniquement, déjà, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, il y avait une seule équipe design chez Algolia qui mêlait product et brand en même temps. Suite à l'équipe qui grossit beaucoup, l'équipe engineering qui se structure, il y a eu besoin de séparer product design et brand design. Et donc, je suis devenu donc le manager de l'équipe brand, et c'est là que je suis devenu, voilà, que j'ai pris ce poste que tu dis. Ce que ça a changé, c'est que du coup, bon, bah, déjà, d'un coup d'un seul, il y avait quand même à dire un changement dans le rythme de la communication avec le product design. On était beaucoup moins impliqué dans les sujets sur le produit en tant que tel. Et on est devenu une team beaucoup plus en lien avec le marketing. Alors qu'avant, la team design, c'était quand même plus électron libre. Donc, ça a été le moment où on a commencé à structurer l'équipe brand, parce qu'on avait une équipe marketing qui grossissait. L'entreprise, au total, grossissait beaucoup. Donc, on avait de plus en plus de besoins. Et donc, ce que ça a changé pour moi à ce moment-là, c'est que je suis vraiment passé de la production pure de tous les assets à un rôle où je continuais à produire, mais en même temps, je devais commencer à gérer les projets des autres et m'assurer de la cohérence de la production de tous les designers. Ça a été le premier enjeu, ça.
Alors, c'est chouette parce que tu as parlé à peu près des deux sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Donc, je vais l'aborder dans l'ordre dans lequel tu les as cités. C'est d'abord la scission de l'équipe design en brand design et en product design. Je trouve ça assez intéressant parce que vous êtes à peu près à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui dans toutes les boîtes. Je reparle encore de Loïc qui est Head of Design chez Malte, donc qui gère la brand et le product design. J'ai reçu Mickaël de Doctolib où son équipe c'est la brand et le product design. Et chez Algolia, pardon, c'est la brand d'un côté et le product design de l'autre. Et avec le recul, est-ce que c'est pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc là, tu l'as expliqué, mais pourquoi dans le temps c'est resté comme ça? Et est-ce que pourquoi vous êtes resté en fait sur cette dichotomie plutôt que de faire une grosse équipe design qui est ce que tu disais tout à l'heure en électron libre, mais peut-être plus en studio en interne qui va travailler avec le marketing et le produit?
Je pense qu'il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. La première chose, je dirais, c'est que ce sont principalement les startups qui ont un produit web, B2C, mobile ou desktop, qui vont unifier leurs équipes. Parce qu'il y a une très forte symbiose entre leurs produits et leurs marques. C'est quasiment la même chose, en fait. On pense au Uber, par exemple, c'est pareil. Uber, leur marque est très sobre parce que c'est leur produit qui fait leur marque. C'est pour ça que dans ces entreprises-là, ça se passe comme ça. Parce que finalement, ils ont beaucoup plus de besoins product design que de besoins brand. Il y a beaucoup de ce qui va être fait en product qui va driver la brand. Chez Algolia, c'est un petit peu différent parce que on a déjà deux gros types de personas. On a les personas dev qui vont se servir d'Algolia pour implémenter la search dans les sites web et les apps, comme tu l'as dit. Et il y a une grosse part de personas qui sont les business utilisateurs qui, eux, vont plus être des chefs de produits ou des responsables de site e-commerce qui, eux, vont utiliser Algolia vraiment pour maximiser des taux de conversion et ces choses-là. Et déjà, on s'adresse pas du tout à ces deux personas de la même manière. Et on a un produit qui est très technique, qui s'adresse quasiment que aux développeurs, même si ça change. C'est pas totalement vrai ce que je dis. Et en fait, il fallait aussi vraiment faire comprendre que notre produit servait les intérêts du business avant tout, même si c'était un outil de développeur. Donc, je pense que c'est pour ça que Algolia, on a gardé la scission entre les deux équipes et qu'on a des équipes de taille quasiment équivalente. C'est qu'on avait besoin de driver des projets auprès de personas différentes et que le produit n'est pas self-explanatory. Il est trop compliqué pour pouvoir baser toute notre communication dessus.
D'accord. Donc, ce qui fait que la brand s'adresse principalement aux devs, c'est ça, là où le produit s'adresse plus au business?
Je dirais que c'est l'inverse. Mais encore une fois, c'est pas vrai parce que notre produit s'adresse à la fois aux devs et aux business users et notre brand aussi. Je pense que la brand fait un travail de démocratisation et d'explication du produit en amont de son utilisation. Parce que c'est un produit qui est beaucoup plus technique. On se sert pas d'Algolia comme on va aller sur Deliveroo commander ses sushis. C'est quelque chose qui est moins intuitif, qui est beaucoup plus technique. Ouais.
Et du coup, comment vous faites quand vous êtes deux équipes? Comment vous faites pour garder une cohérence design pour qu'on se dise, quand tu vois la page du site vitrine de Algolia et que tu utilises le produit, tu te dis, oui, effectivement, c'est la même entité, c'est la marque, c'est les mêmes gens qui sont derrière et que tu n'es pas une scission d'un côté où tu es le brand design où je vais grossir les traits, mais où tu as du violet et en fait le produit il est rouge.
Alors c'est marrant que tu dises ça parce que on va dire cette réunification elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je dirais que ça fait un an ou un an et demi qu'on a réussi à se remettre sur les rails, mais pendant longtemps il y avait une grosse scission entre le produit et le branding. Et donc ça c'était typiquement parce que effectivement on a eu une scission des équipes. Il y a deux choses qui ont contribué à vraiment réussir à réunifier les efforts. La première, c'est que on va dire la team product design s'est un peu mieux structurée avec Craig, donc maintenant le director of product design. Et user research. Donc ça m'a fait vraiment, on va dire, un interlocuteur privilégié, ce qui a permis de prendre des initiatives ensemble. Et du coup, on a désigné chacun un membre de notre équipe qui était responsable design system. Et donc, on a pris la décision d'avoir le niveau atomique de nos design systems en commun. Et après, bien sûr, le produit ayant ses spécificités, ses besoins et le branding d'autres, il y a des éléments divergents, mais on se base sur des briques communes. Techniquement, vraiment, dans Figma, on a un fichier en commun pour l'expression de nos différentes, de nos mock-ups et de nos différents designs, quoi. Donc ça aide.
Moi, il y a une chose, donc c'est hyper intéressant que tu dises que vous avez des bases communes. À partir de quel moment ça commence à diverger ? Parce que je sais que vous... je crois que c'est même toi qui les as designés ou ton équipe, c'est les boutons sur le site vitrine, c'est quand même des boutons qui sont très loin de ce qu'on voit aujourd'hui sur le web, c'est-à-dire que pour essayer d'écrire ça, c'est l'opposé du flat design. C'est un bouton où tu as l'impression que c'est le bouton des années 90 qui ressemble à un vrai bouton sur lequel tu veux cliquer.
Ouais, ça s'appelle le skeuomorphisme.
Le skeuomorphisme, merci de me le rappeler. Et il me semble que votre produit n'est pas du tout en skeuomorphisme, donc ça commence déjà à diverger à ce niveau-là.
Ouais, effectivement. Ça diverge même au niveau des fontes, parce qu'on est un produit très technique, donc côté produit, ils ont décidé d'être en fonte système. Donc si t'es sur Linux, t'es en Ubuntu, si t'es sur Apple, t'es en SF et je sais plus quoi sur Windows. Alors que nous, on avait besoin d'une fonte pour être reconnaissable et identifiable. Voilà, c'est ce genre de considération. C'est-à-dire que notre site web, enfin, on aurait manqué d'une identité, on va dire, un peu plus forte et un peu plus marquée si on laissait notre fonte en fonte système de partout. Puis ça marche pas en print, par exemple. Donc on avait besoin de nous avoir une fonte identifiée. Alors que eux, pour des raisons de performance, ou même d'habitude des développeurs qui aiment bien travailler dans leur système, eh ben ils ont fait ce choix-là. Les boutons, pareil. Le besoin à côté marketing, c'était d'augmenter les taux de conversion sur nos pages web. Donc un bouton qui sort de l'ordinaire, qui retient l'attention et qui a l'impression d'un vrai bouton, donne plus envie d'être cliqué. Tandis qu'à l'utilisation au quotidien du produit Algolia, ben, ça peut être lassant, ça prend trop de place visuellement. Donc c'est ce genre de considération où on s'est en fait rassemblé, d'ailleurs, il y a un Design System Council, un meeting qui a lieu tous les mois chez Algolia, et on s'est posé la question, ça va diverger, est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on travaille à l'unification. Donc on essaie de quantifier tous ces choix-là, quoi. Enfin, pas de quantifier, qu'est-ce que je raconte, de peser le pour et le contre et de les réfléchir, quoi.
C'est hyper intéressant. C'est quoi ce Design System Council ? Tant qu'on est dedans, vu que t'en parles, c'est...
C'est un meeting qui a lieu tous les mois avec les personnes qui sont responsables du Design System. Donc, il y a bien sûr le Director of... Head of Product Design, Craig, moi, et puis du coup Clément, qui est côté Product Design, responsable du Design System, et Nico, qui est de mon côté, Nicolas Meusard, responsable Design System. Et après, on a aussi des membres de l'équipe Engineering, qui sont ceux qui développent le front-end de notre produit, qui ont aussi, bien sûr, leur mot à dire, puisqu'il faut que ce soit techniquement viable. Donc, ça fait une assemblée de 6 à 8 personnes qui se rassemblent tous les mois sur le sujet.
Et du coup, pour la partie plus brand, à quel moment intervient le marketing ? J'imagine que le marketing n'a pas besoin d'être là pour choisir les composants, mais j'imagine qu'eux ont quand même leur mot à dire sur à quoi ça va ressembler, comment ça doit vivre, comment ça va être interprété. Comment elle se passe, cette relation, en fait, entre le brand design et l'équipe marketing ?
Ok. Alors aujourd'hui, le brand design fait partie de l'équipe marketing. Donc, c'est nous qui choisissons à quoi ça va ressembler, puisque du coup, si c'est nous qui choisissons, c'est quand même l'équipe marketing, mais au travers de nous, qui prend cette décision. Après, on travaille beaucoup avec les autres équipes de l'équipe marketing, un peu comme une agence en interne. Ils vont être nos clients et ils vont nous suggérer des idées de campagne, ils vont nous soumettre de ce qu'on appelle de la copie du contenu, et donc on va produire des assets pour eux, et on est très attentif à leur feedback, tout en essayant d'influer sur le choix en ayant l'utilisateur en tête. c'est vraiment la relation qu'on a avec eux. On travaille avec eux en essayant de défendre les utilisateurs auprès d'eux, quoi. L'exemple que je cite toujours tout bête, c'est que souvent les marketeurs vont vouloir aller à fond. Ouais, non, mais là, pour que ça soit bien visible, il faut faire du rouge et du jaune, comme chez Lidl et tout. Sauf que bah, c'est pas nous, c'est un peu agressif. Donc on essaye de calmer ces ardeurs-là. J'exagère le trait, hein, personne ne m'a jamais dit ça. Encore que. mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, on fait partie de l'équipe marketing. Donc, c'est nous qui prenons ces décisions-là pour l'équipe marketing.
Et à quel niveau le travail se fait ? Tu dis, je vous donne de la copie et vous travaillez autour de ça. Est-ce que vous allez jusqu'à faire, je ne sais pas, tu parlais tout à l'heure des templates des pubs, mais est-ce que vous faites aussi les templates d'email ? En fait, concrètement, où commence votre travail et où est-ce qu'il s'arrête ?
Très bonne question, ça aussi, c'est compliqué d'y répondre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de charge de travail, on va dire, on travaille 75% du temps avec l'équipe marketing, 25% du temps avec toutes les autres équipes, engineering, sales, ce qu'on appelle employee experience aussi, donc tout ce qui va être l'équipe qui s'occupe des bureaux, les happiness managers, de tout ce qui est le kit de bienvenue des employés. Là. Donc ça fait beaucoup de sujets tout à fait transverses. Donc globalement, tout ce qui va toucher à l'image de marque, à la perception que les gens ont d'Algolia, on essaye d'avoir un mot dessus. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours possible, mais le plus possible. On travaille aussi assez étroitement, occasionnellement avec l'équipe exec, les CEO lorsqu'ils font des pitch decks auprès des investisseurs. Et où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'ils s'arrêtent ? Au jour le jour, une grosse partie de notre travail, c'est la production d'assets. Donc, on fait le site web, on fait, comme je te disais, les ads sur les réseaux sociaux, les événements, tout ce qui est la représentation visuelle de la marque. Et après, sur une trame de fond, on intervient. Moi, je suis en ce moment, par exemple, dans des meetings de réflexion sur le nouveau positionnement et le messaging d'Algolia. C'est pas moi qui vais le faire, c'est pas moi qui vais l'écrire, mais je vais avoir mon mot à dire pour pouvoir réagir dessus et voir à quel point ça va avoir un impact sur le design et du coup essayer de penser en avance ce design pour modifier ce messaging pour qu'il soit après derrière vraiment adaptable sur tous les supports visuels. Donc ça, c'est vraiment plus la trame de fond. Et puis il y a toujours cette idée de comment est-ce qu'on veut être perçu, qui on est, qui sont vraiment les côtés plus stratégiques. Et franchement, pour pas te mentir, au jour le jour, c'est des choses auxquelles tu penses pas. T'es souvent le nez baissé, donc il faut prendre un peu un step back et un peu de recul de temps en temps pour se dire est-ce qu'on a fait fausse route ou pas.
Je comprends. Justement, on va step back un peu et je vais arrêter de te poser des questions assez vastes et assez compliquées. Si on en venait un petit peu au management, toi, t'étais brand designer, t'étais tout seul, c'est ça, à l'époque ?
Ouais.
Donc, j'imagine que t'as dû créer ton équipe.
Ouais.
Et la question, elle est simple, c'est comment on crée son équipe ? C'est faux, elle n'est pas simple.
Non, c'est... La première chose que j'ai envie de te dire, déjà, c'est en se trompant. C'est peut-être pas la réponse qu'il faut dire. Comment est-ce qu'on crée son équipe ? En tout cas, la manière dont moi j'ai essayé de le faire, c'était avant tout de recruter des designers passionnés. Parce que on est tellement sur un métier qui est... où on a besoin de, comme tu disais tout à l'heure, transmettre de l'émotionnel. Si on ne se fait pas plaisir en le faisant, on ne transmettra pas de plaisir aux gens. Et si on n'a pas de plaisir à faire notre métier et à apprendre, on n'évolue pas. Et dans notre métier, si on n'évolue pas, on est mort. Donc c'est la première chose, c'est d'avoir des designers passionnés, peu importe leur profil, peu importe qu'ils soient senior, junior, expérience, UI, UX, spécialisé, graphiste, généraliste, tout ça, on s'en fout un peu. C'est la première clé. Après, quand tu commences à construire une équipe de 4, 5, 6 personnes, j'ai essayé de travailler sur une complémentarité des profils. Et au quotidien, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes du print ou des spécialistes de l'ad web, des spécialistes de la UI UX. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent en silo. Je veux surtout pas qu'il y ait des designers qui fassent que du print ou d'autres qui fassent que le site web. Parce que sinon, tu arrives à des communications radicalement visuellement différentes sur tes différents supports et ça rompt ce besoin de cohérence que tu as, qui est quand même la base d'une création de marque. Donc, tout le monde travaille sur tout au moins une fois de temps en temps. Mais lorsqu'on a une vraie question ou besoin d'un coup de pouce, on a un designer identifié qui est spécialiste sur le sujet qui va pouvoir nous aider. Voilà, je dirais à peu près ça. Et pour aller donc dans cette direction-là, bah, il y a deux choses que j'ai mis en place en tant que manager. La première, c'est qu'en milieu de semaine, on a toujours un point où on se réunit en équipe et on fait des reviews du travail en cours. Ça vaudrait peut-être le coup que je dise comment on travaille au quotidien, mais bon, on peut y revenir plus tard. Et l'autre chose, c'est de manière un peu plus occasionnelle, mais tous les trimestres, un designer de l'équipe est en charge de faire un cours d'une heure à deux heures aux autres de l'équipe sur un sujet en particulier qu'il maîtrise. Et ça a vraiment le mérite d'élever un expert sur un sujet, parce qu'il a potassé son sujet pendant deux jours pour créer son cours, et d'élever le niveau du reste de l'équipe. Donc c'est vraiment dans cette démarche de dire ok, on a des spécialistes mais qui sont quand même des touche-à-tout. C'est comme ça que j'ai essayé de composer l'équipe, et ça permet d'avoir une rotation et d'éviter l'ennui aussi que d'être toujours sur les mêmes sujets, parce que en tant que manager d'une équipe design et spécialement de brand design, je pense que une de tes missions, c'est de garder ton équipe inspirée et motivée. Et donc, c'est aussi une manière de le faire que de varier les plaisirs, on va dire.
J'avais plein de questions à poser. Ouais. Tu as répondu à quasiment toutes. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais du coup, je vais te poser la question que tu vas soulever. C'est comment, du coup, vous travaillez au quotidien?
Ouais. OK. Donc, ça, c'est c'est le process qu'on a aujourd'hui, qui s'est construit petit à petit au fur et à mesure des années. Et il est très simple. On travaille en sprint, ce qu'on appelle les sprints d'une semaine. Donc on a on utilise Asana, donc on a une Trello board en gros. On recueille les requêtes de toutes les équipes qui ont un besoin à cet endroit-là. Et tous les lundis, on fait une première réunion d'équipe où on va assigner ces tâches aux différents designers. C'est une décision qui est que je veux volontairement, on va dire, un peu collective. Je veux pas être ce manager qui dit toi tu fais ci, toi tu fais ça. On décide ensemble. C'est justement ce qui permet à un designer un jour de dire ouais non là c'est bon, je viens de me taper 600 ads ces 4 dernières semaines, est-ce que je peux changer? Donc comme ça les gens ont aussi le choix de ce sur quoi ils veulent travailler. Une fois que cette réunion du lundi passe, on a donc la réunion du mercredi qui est celle à mi-parcours du sprint en milieu de semaine, où là on fait un point de revue où ils disent voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais aussi améliorer ça, est-ce que vous avez des idées? Ça a deux grandes vertus cette réunion, c'est que quand tu présentes ton projet, déjà ça te force à remettre le contexte auprès des autres designers et du coup tu es meilleur à présenter ton projet. Ça te débloque sur là où tu as tes sujets quand tu es en panne d'inspi ou que même il y a quelque chose, ça bloque, ça va pas, ça te permet d'avoir un regard différent. Et le dernier truc qui est vachement bien, c'est que pour tous les nouveaux designers qu'on est en train d'onboarder, quand ils sont nouveaux dans l'équipe et qu'ils ont besoin de s'intégrer, ça leur permet de voir ce que font les autres. Et donc, ça leur donne de l'inspiration et ça leur montre aussi ce qui se fait, ce qui se fait pas, puisque comme je disais au début, c'est eux les guidelines. Donc en fait, s'ils se montrent entre eux ce qu'ils se font, ça leur donne des idées, ça leur montre le champ des possibles et ce qu'ils peuvent explorer. Donc cette réunion, elle est vraiment très importante. Et puis après on fait les one-one le jeudi, où donc là je suis en solo tête à tête avec chacun des designers. On fait plus un point soit sur leur projet en cours, soit sur leurs aspirations de développement de carrière, et quelles sont les compétences qu'il faut qu'ils approfondissent, ou eux ils me disent aussi voilà, j'ai envie d'aller plus par là, donc ça me permet de la semaine d'après savoir quoi leur assigner comme task. Et puis le vendredi, souvent je leur demande, alors là ces derniers temps on n'a pas eu le temps parce qu'on était vraiment sous l'eau, mais de publier sur le web ce qu'ils font sur Dribbble le plus souvent, de manière à ce que en continu ils s'enrichissent de leur portfolio. Comme ça c'est aussi en tant que manager, je pense que tu as à penser au next move de tes équipes. Tu les garderas pas toute ta vie, c'est pas leur rendre service que de faire ça. Donc s'ils ont un truc qu'ils ont alimenté toutes les semaines pendant un an, à la fin ils ont 50 shots sur Dribbble, ça fait un portfolio conséquent et cool. Et puis de faire ça, j'ai constaté que ça leur permettait deux choses: d'être fiers de leur travail à la fin de la semaine, de pouvoir partir en week-end en ayant le sentiment du travail bien fait, et d'envisager leur travail d'une autre manière. Ils se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cool sur ce sujet-là pour être fier de le poster à la fin de la semaine. Et c'est ça qui fait qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils font pas juste ce qu'on leur demande en disant bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois.
Je vais revenir sur tout ce que tu as dit. si tu le veux bien. C'est, la première chose, c'est cette organisation des sprints et des sujets. Les sujets, ils viennent de qui ? Ils viennent d'où ?
Les sujets, ils viennent de toute la boîte. Ça peut venir de partout, partout, partout. Le gros, c'est l'équipe marketing. Donc, dans l'équipe marketing, il y a ce qu'on appelle l'équipe field marketing, qui est l'équipe des événements, donc qu'ils soient online ou offline, et des partenaires. Donc, on a des partenaires intégrateurs Algolia. On a l'équipe demand generation, qui est vraiment plus là pour créer ce qu'on appelle du pipeline, que les sales aient des gens qui les contactent pour qu'ils rentrent dans une négociation avec eux. L'équipe web qui est vraiment en charge du site web. Toutes ces équipes-là ont des objectifs tous les trimestres qui viennent de l'équipe dirigeante. Et donc, régulièrement, ils arrivent vers nous avec des sujets qu'ils ont sur la table en rapport avec les campagnes en cours, les nouvelles features qu'on est en train de release la saisonnalité, par exemple. C'est bientôt le Black Friday ou quand c'est Noël. Et donc, ce sont ces équipes-là qui créent des tasks, ce qu'on appelle les tasks dans Asana, et toutes les semaines, on regarde et on se dit, OK, ça, c'est pour telle date, et on organise un peu notre roadmap en fonction de ça.
Et quand tu parlais de, justement, une fois que tes designers ont commencé à travailler sur ces sujets-là, vous vous retrouvez le mercredi, vous parlez de ces sujets-là, j'imagine que ça se passe comme ce qu'on dit dans le podcast d'habitude, une review, comme des product designers pourraient le faire, où chacun donne ses retours dessus. Est-ce que, justement, les gens qui font ces tâches-là sont conviés, qui demandent ces tâches-là, pardon, sont conviés à votre review pour elles aussi donner leur avis, ou vous faites ça en effet tunnel, et à la fin, vous dites, voilà, c'est fait. Comment sont pris en compte les retours extérieurs à l'équipe design ?
Alors, cette réunion, elle est volontairement juste entre designers pour on va dire, avoir un safe space où on peut se dire les choses plus franchement et sans voilà, provoquer de réaction et on veut vraiment rester sur des sujets purement design. En revanche, ce dont je t'ai parlé, c'était vraiment les meetings qui sont récurrents chaque semaine. Mais chaque projet va avoir son lot de meetings après de suivi. Et donc, on évite l'effet tunnel comme ça. Et puis, de manière très opérationnelle, on a aussi à chaque projet un channel Slack dédié où tout est partagé en cours de route. Donc, si c'est sur une page web, on va d'abord parler wireframe et copy, ensuite d'abord wireframe, après mockup IRES, et ensuite on intègre. Donc, il y a vraiment, on a un suivi qui est quand même assez proche. On évite l'effet tunnel au maximum, et si on a un effet tunnel, il est de l'ordre du sprint, c'est-à-dire d'une semaine, ce que je trouve, on va dire, acceptable.
Tout à fait.
Sauf pour les last minute requests.
Oui,
mais
qui arrivent tout le temps dans n'importe quelle équipe. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est toute cette partie de former ton équipe et de la faire grandir. On aborde parfois le sujet dans le podcast. Là, tu parlais de... si tu as quelqu'un qui travaille sur un sujet qui n'est pas son domaine de prédilection, ben, y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir venir l'aider. Est-ce que ça prend la place, par exemple, d'un peer reviewing, ou c'est plus... vraiment, quand tu as besoin, tu dis à la personne, viens m'aider, mais c'est pas deux personnes qui travaillent ensemble sur un même sujet, un qui connaît, un qui connaît pas, et c'est celui qui connaît qui va plus être là en appui pour...
Je pense que... Ouais, c'est du peer reviewing. Tous les membres de l'équipe se perçoivent au même niveau. Il y a des juniors, des seniors, mais il n'y a pas de hiérarchie dans l'équipe, je dirais. Moi-même, hein, je me place vraiment au même niveau qu'eux. Je leur dis souvent que j'essaie de recruter des gens qui sont meilleurs que moi, donc je peux pas être bon partout. C'est vraiment plus du conseil. Et après, il y a vraiment ce côté qui était important pour moi, qui est, bon, pareil, plus inquantifiable, mais on a un peu cet esprit d'équipe vraiment, ou de famille, ou de groupe d'amis en tout cas, dans la team. On s'entend tous très bien, il y a quand même une bonne ambiance, on rigole. Ça, c'est super important, je trouve, puisque, comme on disait au début de cette conversation, c'est un métier où il y a de l'émotionnel. Et je pense que si t'es avec des gens avec qui tu t'entends pas, tu peux pas faire vraiment du bon taf. Donc il y a plus ce côté, on s'aide entre potes, que quelque chose de très unidirectionnel, hiérarchique, quoi.
Toujours sur cette partie de la formation et de grandir, tout à l'heure, tu parlais d'une personne qui fait un cours par trimestre, c'est ça ? Ça me semble à la fois beaucoup et très peu. J'ai l'impression que c'est très intéressant parce qu'il y a des boîtes dans lesquelles, en fait, t'as pas de cours et donc personne ne transmet son savoir. Et en même temps, je me dis, un par trimestre, ça me semble peu parce que t'as vraiment, je ressens ce, dis-moi si je me trompe, mais t'as vraiment cette envie de faire progresser ton équipe et de la faire monter en compétences. Et je me dis, c'est un partage de connaissances qui est assez sporadique. Et est-ce que c'est parce que c'est long à faire ou parce que vous avez trop de taf, hein, qui...
Ouais, c'est vraiment ça la raison, c'est le manque de temps. À la base, j'avais dit, ok, vous m'en faites un chacun par trimestre. Donc ça faisait, on était 4 ou 5, donc il y avait quand même 5 cours par trimestre. Et en fait, c'est trop. Là, pour le coup, même, c'était trop à ingérer. Je pense que le bon ratio, ça serait 2 par trimestre. Mais encore une fois, on a pas le temps. Et puis des fois, on n'a pas les idées aussi de ce sur quoi on va faire le cours. Donc, ouais, un par trimestre, sachant que là, on a eu, avec la reprise post-Covid, même pendant le Covid, ça a été une période d'activité intense pour Algolia, parce que l'e-commerce s'est beaucoup développé. Donc, c'était des moments où on avait moins le temps et puis peut-être un peu moins la foi de le faire aussi, parce qu'à distance, on sait tous ce que ça a été, quoi. Mais là, oui, on est en train de restructurer l'équipe, de réembaucher des designers, donc ça va se reproduire plus souvent.
Et justement, les sujets des cours, tu peux nous en donner quelques-uns pour qu'on se fasse une idée du partage de connaissances ?
Ouais, grave. De manière très simpliste, je dirais, il y a 2 ans maintenant, peut-être un peu plus, hein, parce qu'avec le Covid, je ne sais plus, quand on est passé sur Figma, il y a Nico, donc, qui est responsable design system chez nous, qui a fait un cours de 2 heures à tout le monde sur qu'est-ce que le design system, comment ça marche, Atomic Design de Brad Frost, et comment ça va s'exprimer de manière très opérationnelle dans Figma. Et d'ailleurs, avant ça, il avait fait un premier cours sur... comment est-ce que ça va se passer dans Sketch plus Abstract. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de mettre en place des bonnes pratiques dans notre équipe via ce cours-là. On a eu des cours sur ensuite le motion design, la 3D dans Cinema 4D ou Blender, des choses comme ça.
Hyper intéressant. C'est uniquement réservé aux brand designers ou des fois vous acceptez les product designers ?
À la base, c'était que pour les brand designers. Et puis quand les product designers, ils ont vu qu'on faisait ça, ils ont dit « Ah, mais on va venir, nous aussi !» et tout. Donc maintenant, c'est ouvert à tous les designers.
Intéressant. Allez, est-ce qu'on reparlerait pas un petit peu de marque ?
Oh là là.
Depuis tout à l'heure, tu dis que c'est les brand designers qui incarnent la marque, qui la font évoluer, les guidelines sont mouvantes, ça je comprends très bien. Mais comment on s'assure que quand elles sont en train de mouvoir, elles évoluent quand même dans le bon sens et que s'il y a une décision à prendre à un moment pour pas se planter, qui la prend ?
C'est très compliqué de répondre à, enfin de le voir sur le moment, voire impossible. Puis je suis vachement plus de l'école de dire on le tente et si on se plante c'est pas grave, fail fast, iterate fast comme ils disent. Ce qui est important c'est de pas faire la même erreur 2 fois. Donc on a fait plein de choses où on s'est planté et c'est pas grave.
Mais tu vois, je comprends totalement, ça me choque pas par exemple si tu fais de la pub, si tu fais des flyers, c'est une petite incidence. Si tu fais un stand ou si tu fais toute une pub, le risque est quand même plus important.
On a eu des erreurs qui nous ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est arrivé. C'est la vie, c'est le jeu, on apprend. Donc ça, il faut limiter ses erreurs, hein. Bien sûr, c'est souvent moi qui vais donner un go final sur les aspects techniques du design et on a toujours un stakeholder, ce qu'on appelle un partie prenant en marketing qui va aussi valider de son côté. Donc on est toujours au moins 2 personnes à valider quand même, ça limite les erreurs au quotidien. Après, ça arrive qu'on ait des problèmes où on s'est pas bien entendu avec les prestataires et qu'on se retrouve avec pas tout à fait ce qu'on voulait, mais c'est jamais gravissime. Ce qui peut le plus impacter, on va dire, une marque, je dirais, c'est une erreur de communication, quelque chose qui va être mal pris. Et qui va créer le bad buzz. C'est ça le pire à craindre en fait lorsque tu fais quand tu fais de la marque, c'est d'avoir un bad buzz où d'un coup, d'un seul, tout le monde va parler de toi, mais alors en mal. Parce qu'on dit beaucoup, oui, parler de moi en bien ou en mal, ce qui compte c'est que vous parliez de moi. Il y a des marques qui se sont pas relevées quand même de ça. C'est ça le pire.
C'était le sujet de mon mémoire de fin d'études. J'ai une question à te poser qui est liée à ça. Et elle est hyper compliquée, donc...
Je te vois rigoler, ça ne me rassure pas.
Non. La question, elle est assez large, et je sais qu'elle n'est pas universelle, mais c'est quoi en fait une bonne décision branding ?
La bonne décision branding, c'est comme une bonne décision dans la vie. C'est celle qu'on, qu'on fait en ayant réfléchi avec ce qu'on avait sous la main à ce moment-là et dont on est fier de l'apprendre parce qu'on se dit que c'est la meilleure ou en tout cas la moins pire à prendre à un instant T. Y a que le temps qui dira si ça c'était bien ou pas bien. Du coup, il faut s'enrichir de cette expérience après pour éviter les erreurs dans le futur. C'est vraiment comme ça que je vois mon taf, c'est que je fais des erreurs tout le temps. Et ce que j'apprends, c'est à plus les refaire.
Ce que tu disais tout à l'heure, du coup, se planter le plus vite possible pour itérer. J'ai remarqué un truc, c'est que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur votre dribble, il y a quand même pas mal de choses qui sont postées, qui sont totalement en accord avec la marque. Par exemple, les images que vous mettez sur tous vos posts de blog, qui correspondent vraiment aux images qu'on retrouve sur le site. Mais il y a deux, trois choses que je vois qui sont assez originales, que vous créez par exemple pour des événements algoliens. Comment ça se fait que pour ce genre de choses, vous décidez de, j'ai envie de dire, de vous taper un kiff ou de totalement prendre, de totalement dire au revoir à la charte graphique que vous avez mis en place pour faire autre chose.
Ça sert pas les mêmes objectifs. C'est pour ça, c'est là où on va pouvoir faire la distinction. Les blog posts, comme tu l'as dit, si on crée des images, on est un des rares blogs où on se fait vraiment chier, si je peux me permettre l'expression, à faire nos images de blog posts nous-mêmes. D'ailleurs, on va dire big up à Nico Torres, qui est un illustrateur 3D avec qui on travaille en ce moment, qui nous fait des super visuels à venir très bientôt. C'est parce que on veut que lorsque les gens vont partager nos articles de blog sur les réseaux sociaux, ça soit reconnaissable et qu'il y ait cette identité Algolia. Lorsqu'on fait des choses comme tu viens de le citer, donc soit des stickers, soit des fois des flyers ou des t-shirts qui sont pour les employés ou en événement, ou même certaines campagnes pour les réseaux sociaux, là tu sers un objectif différent qui est de susciter une émotion chez les gens et de les faire réagir. Et si, en fait, dans ces moments-là, tu t'ancres purement et simplement dans ta logique de marque, à la fin, ton message, il est dilué et puis il devient ennuyeux parce que les gens connaissent tout. Donc, c'est quand on veut donner, on va dire, un petit coup de fouet à nos supports de com qu'on va se permettre de faire ça. C'est principalement pour des choses en interne, parce qu'on ne va pas s'amuser à distribuer toutes les 4 semaines aux employés un logo Algolia sous forme de sticker, ils en ont déjà 1000. Non, au contraire, on va essayer de les faire marrer avec des petits persos, des choses pour lesquelles ils vont développer une forme d'affect et qui seront fiers de mettre sur leur laptop quand ils vont aller en meet-up. Donc c'est plus ces considérations-là, c'est faire plaisir aux gens. La charte graphique, c'est vraiment une route qui va porter ta communication, mais sur cette route, il y a des voitures de toutes les couleurs. C'est n'importe quoi comme métaphore.
Ça y est, tu viens de passer l'heure d'enregistrement, en fait.
C'est pour ça, j'ai bu trop d'eau aussi.
Tu as évoqué un freelance, c'est ça ? Tu travailles pour vous ? Vous bossez avec beaucoup de freelance ?
Ouais, on bosse avec pas mal de freelance. Là, actuellement, on travaille donc avec un freelance qui est spécialisé sur nos illustrations de blog posts parce qu'on n'avait plus le temps de les faire en interne. Et à côté de ça, on a deux freelances généralistes en France et à Atlanta parce que ça nous permet d'avoir une présence, on va dire, 24 heures sur 24, ce qui est important vu qu'on a des équipes un peu de partout dans le monde. Et on va entamer la collaboration bientôt. Je suis encore en train de chercher un motion designer en freelance. Ce qui est très cool par rapport à ça, c'est que là on vient de refaire une levée de fonds il y a quelques temps, une série D avec Algolia, et donc on voit vraiment qu'il y a des efforts budgétaires qui sont faits sur la marque. Ça a vraiment permis de shifter mon travail de manager de l'équipe brand. Avant, j'étais dans un mode où j'avais des ressources et il fallait que je fasse rentrer les demandes de toutes les équipes dans ces ressources, ce qui a amené parfois à certaines, on va dire, frustrations, puisqu'on doit livrer vite des choses. Et donc, quand on les livre vite, on ne les fait pas aussi bien qu'on veut. Et donc, les personnes pour qui on les fait ne sont pas 100% satisfaites et le designer n'est pas non plus 100% satisfait de son travail. Et là, maintenant, on a vraiment switché à « je peux me permettre de dire « ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» On va le faire 100% du mieux qu'on peut. Et du coup, en fait, je vais placer la ressource en face par rapport à ce besoin. Donc, c'est plus la ressource qui dicte le besoin, c'est le besoin qui dicte la ressource. Et ça, c'est extrêmement plus agréable comme manière de travailler quand tu es manager d'une équipe.
Je te posais la question, parce que je comprends bien comment tu gères tes équipes et comment tu fais, mais Est-ce que le fait de faire appel à des freelances en brand, ça dilue pas un peu l'essence de l'entreprise? Moi, comme je le vois, hein, c'est t'es brand designer, tu travailles pour une entreprise, donc une entreprise que t'incarnes cette marque en interne et en externe. Et il y a des freelances qui sont là pour t'aider à faire des choses, mais qui n'incarnent pas forcément la marque, puisqu'ils sont juste payés par la boîte, mais sans vraiment y travailler. Est-ce que c'est une vision que moi j'ai, ou est-ce que c'est quelque chose que tu constates au quotidien?
Je pense que tu as raison. Alors déjà, on essaie de travailler quand même assez étroitement avec ces freelances. Moi, je fais beaucoup de suivi hein, toutes les semaines sur. En fait, au même titre que pour les designers en interne, je vais valider ou non ce qu'ils vont faire pour être sûr de pas diluer cette brand, comme tu as dit. Après, la réalité aussi, c'est que ces freelances vont être plus dans un rôle d'exécution, souvent par exemple de déclinaison des différents supports, plus que dans la création. Toutes les pages du site web, par exemple, sont des éléments tellement stratégiques qu'on les fait forcément en interne. Et c'est pour que les designers en interne aient ces sujets stratégiques, parce qu'on va dire ce sont un peu les experts Algolia, qu'on les offload, on leur enlève un peu de tâches dans leur bande passante pour les mettre en externe. Et enfin, le freelance dont je parlais tout à l'heure, Nico La Torres, donc pas Nicolas Mezard, un autre, qui fait nos illustrations de blog post en 3D. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été employé chez Algolia pendant 3 ans en tant que dev, et il s'est reconverti dans l'illustration. Donc, pour lui, pour le coup, c'est pour ça qu'il est sur des sujets plus créatifs, parce que il incarne la marque, il la connaît bien, et il a travaillé chez nous.
Très clair. Depuis tout à l'heure, on parle de la marque, de ce que fait ton équipe, comment tu l'as fait grandir. Toi, tu as un rôle 100% de manager ou tu fais encore de la créa à côté? Et là, je parle juste chez Algolia. On parlera ensuite.
Oh là là, on est mal. Je continue à faire de la créa et ça va avoir lieu de moins en moins. Mais en tout cas, quand tu construis une équipe, c'est ça que je veux bien dire à tout le monde, c'est que on s'attend à ce qu'il y ait un shift, que d'un coup on est manager et qu'on va plus faire de prod. C'est pas du tout vrai. Hein. La réalité des choses, c'est que tu deviens à avoir autant de prod à faire qu'avant, plus ton taf de manager. Là maintenant, j'ai vraiment considérablement réduit la prod parce que je pouvais plus suivre. Plus qu'une question de temps horaire dans ton agenda, il y a vraiment une question aussi de mindset. Parce que lorsque tu es en train d'être dans un exercice de management, de s'occuper des projets des autres, et que d'un coup, tu dois repasser dans un mode création, compréhension d'un sujet et production, c'est deux états d'esprit complètement différents. Et l'après-midi, par exemple, si je vais avoir 4 meetings avec San Francisco et New York qui sont espacés d'une demi-heure, cette demi-heure entre deux meetings me permet absolument pas de me mettre en fait, c'est le switch entre les deux est très compliqué. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de focus mes matinées sur la création et de la production, et l'après-midi sur tout ce qui est meeting et gestion des autres projets.
Je te pose la question parce qu'il y a un mois, tu as eu une promotion. T'es devenu, alors attention, je cite, Senior Manager Creative Services. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Est-ce que ça change pour toi?
Ouais, c'est un titre à l'américaine, comme on dit. Il y a 4 mots quand même.
Il y a même 4 mots et une virgule.
Une virgule, bien sûr, s'il faut prendre sa respiration quand tu le dis. En fait, la manière dont on travaille chez Algolia et qui est, je pense, la manière de beaucoup de startups et d'entreprises, c'est que souvent, on te donne le titre une fois que tu as fait le job, de montrer que tu en étais capable. Donc, tu fais ce job et après, on te dit « Ok, c'est bien, t'es vraiment ça ». Donc, ça fait un moment que je fais ça. Donc, mon quotidien, on va dire, il a changé il y a un an ou deux quand vraiment j'ai mis un accent à m'impliquer plus en amont. Du design dans les projets, avoir, on va dire, une première prise de décision avec les parties prenantes qui étaient en train de créer les campagnes et choses comme ça, pour ensuite pouvoir être capable de les transférer aux designers et de les accompagner tout au long du projet, et pas juste d'arriver à la fin pour leur dire oui ou non. C'est au cours du projet, on fait en sorte de dire attention, rappelle-toi, un des objectifs c'était ça, là on n'y répond pas tout à fait. C'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu ce switch, quand c'était plus seulement du management humain, mais que c'est vraiment devenu du management de projet sur tous les projets, quoi.
Hyper clair. Bon, alors je t'ai un peu taquiné tout à l'heure sur est-ce que tu continues de travailler à côté, hein, est-ce que tu fais encore de l'opérationnel, parce que En fait, à côté d'Algolia, tu es freelance. Et t'as... Alors, je ne sais pas si c'est une entreprise ou c'est juste le nom que tu as donné qui s'appelle Studio Navisé. Et la question que je me suis posée, et encore plus maintenant qu'on en a parlé, c'est bon, tu as l'air d'avoir un petit peu de taf, beaucoup d'équipes à gérer, beaucoup de produits à faire. Pourquoi tu fais encore du freelance à côté? Est-ce que tu t'ennuies au quotidien chez Algolia?
De manière générale, dans la vie, je m'ennuie vite. des fois, on dit que je suis hyperactif. Je suis pas hyperactif, mais j'aime bien faire des choses. Et donc, le freelance à côté, enfin, ça fait des années. Ça fait des années que je suis freelance et en fait, j'ai gardé le statut. Et quand il y a des sujets qui me plaisent, je vais travailler dessus. Ce que j'y vois comme impact positif, et c'est pour ça que j'ai encouragé tous les designers de l'équipe à être freelance aussi à côté, c'est que c'est souvent une bouffée d'air frais, créative. Lorsqu'on est en brand chez l'annonceur, comme on dit, et pas en agence, on reste sur le même sujet, parfois pendant plusieurs années. Et on peut avoir un peu cette fatigue de toujours faire la même chose, toujours utiliser les mêmes couleurs, etc. Des fois, ça peut être un peu lassant. Et donc, avoir des sujets à côté, ça permet de travailler sur d'autres trucs, se re-challenger, ressortir de sa zone de confort, et aussi se prouver qu'on sait le faire. Et très souvent, les designers donc chez Algolia qui ont travaillé sur d'autres choses en dehors, reprennent des idées et des inspirations qu'ils ont eues en bossant sur ces autres projets pour les injecter chez Algolia. Donc en fait, c'est vraiment, je déteste ce terme, mais gagnant-gagnant que de faire ça.
Ça nourrit leur travail.
Ça nourrit leur travail et leur réflexion.
Et toi, tu as dit que quand tu trouvais certains sujets qui t'intéressaient, tu travaillais dessus. Tu peux nous dire un peu quel genre de sujets sur lesquels tu travailles? Est-ce que c'est vraiment exactement la même chose que ce que tu fais au quotidien, ou est-ce que c'est des sujets un peu différents qui sont de l'ordinaire? Est-ce que tu fais, par exemple, du product design à côté? Je ne sais pas.
Je fais du product design de manière très limitée. J'ai pas la prétention d'être un product designer parce que c'est un métier qui est très complexe et très complet. Moi, je vais faire aller de la UI, ouais. De la UI et un peu de UX, des user flow, mais ça va s'arrêter là. User research et puis hypothèses, tout ce qu'on connaît, là, le double diamond et ces choses-là, c'est des sujets que je connais mais que je maîtrise pas fondamentalement et qui m'intéressent pas toujours.
D'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, on en parle avec Jérémy Barré dans un épisode. Je mettrai le lien dans la description.
Salut Jérémy, d'ailleurs. Donc, je fais principalement du branding. Par contre, souvent dans des industries complètement différentes de la mienne. Notamment, il y a quelques temps, j'avais des copains qui lançaient leur marque de vin et j'ai fait tout le branding de la marque de vin, et puis du coup maintenant je suis associé avec eux, donc on a notre marque de vin. C'est ce genre de sujet là qui sont quand même loin de la tech.
Super intéressant. J'ai vu ce projet passer. Je vous le mettrai dans la description pour les gens qui veulent aller voir ce que tu fais. Et juste une dernière question que je me posais là-dessus, c'est où est-ce que tu trouves le temps de bosser sur des projets à côté de ton taf?
Bah là, maintenant que les bars et les restos ont réouvert, c'est plus compliqué. Mais là, pendant un an et demi, j'ai eu des week-ends entiers pour me focus sur mes side projects, donc c'était plutôt facile. Mais maintenant, en ce moment, puis là, l'hiver arrive, donc moi, je m'écoute beaucoup sur ça. C'est que si je suis fatigué, je vais pas me forcer non plus. Le freelance, ça permet de faire des one-shots, de bootstrapper des brandings et de les mettre dans les mains des entreprises et puis de tout faire pour qu'ils soient successful, mais après, tu t'en occupes plus. Donc ça, pour ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de récurrence. Donc j'ai pas d'engagement de ces côtés-là. Donc c'est vraiment pour ça que je te disais, je l'ai choisi quand le sujet me plaît et puis que je sens que j'ai le temps et l'énergie. Parce qu'il y a des périodes où tu rentres le soir, il est 20h, t'es sur les rotules, t'as pas du tout envie de te mettre dans une deuxième journée de travail, pour être très honnête.
Je comprends. J'imagine qu'après cet enregistrement, tu vas pas aller faire du freelancing.
Eh bien, détrompe-toi.
C'est vrai.
Je vais travailler sur ma chaîne YouTube en rentrant.
Merci de m'offrir cette transition sur la dernière question. Du coup, est-ce que tu as des ressources à nous recommander?
Ah, tu veux que je recommande ma propre chaîne YouTube?
Écoute, si tu ne la recommandes pas, dans tous les cas, je la mettrai en description puisque tu viens d'en parler.
Bah, mets-la en description. Je voulais parler d'autres chaînes YouTube, en fait. allez voir ma chaîne. Ça n'a rien à voir avec le brand design, mais on se marre bien. Je voulais recommander en ressources, j'avais trois chaînes YouTube, puisque c'est un format que je consomme pas mal, que j'aime beaucoup. Une qui est assez connue, qui s'appelle The Future, sans E. Donc, qui a été créé par Chris Do du Blind Studio, qui est un studio de branding aux US. Et en fait, ils organisent beaucoup de débats avec des brand designers. Il y a beaucoup de questions. C'est en anglais, hein, mais le contenu est très intéressant. Ils suivent aussi certains de leurs clients. C'est une agence de branding, hein, donc ils ont leurs clients et ils montrent comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils brainstorment avec leurs clients et comment est-ce qu'ils créent une marque. Il y a des marques qu'ils ont suivies vraiment du début de la réflexion à l'aboutissement de ça. Ensuite, en termes de chaîne YouTube, et c'est plus côté technique, j'aime bien celle de Daniel Schiffer, qui est un spécialiste de la vidéo et notamment du B-roll, ce qu'on appelle, qui est une manière de tourner autour pour un pack shot produit. Donc ça, le pack shot produit, c'est un exercice de style en branding. Donc c'est pour ça que je voulais en revenir à ça. Et puis il montre plein d'astuces en fait pour gérer son éclairage et filmer. Et si vous, par exemple, vous êtes brand designer et que votre marque elle a pas de vraiment de ressources budgétaires et que vous dites on peut pas prendre une agence pour tourner un clip, bah en fait là sur cette chaîne vous trouvez plein d'astuces pour faire vos clips vous-même et vous rendrez compte que vous avez les capacités de faire quelque chose de cool. Et puis enfin, c'est pas tout à fait une chaîne YouTube, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est le travail de l'agence de Focus Lab, qui est pour moi une super agence de branding. Ils ont travaillé avec plein de types de clients différents. Ils ont un dribble très fourni, un Behance super intéressant et leur site web est super. Ils représentent vraiment le branding à l'ère où toutes les agences sont maintenant dans le product design. Hein, le branding, on n'en voit pas beaucoup. Pour moi, eux, ils représentent cette nouvelle vague. Parce que je pourrais parler des agences de branding à l'ancienne comme Dragon Rouge, Carré Noir, qui sont très bien pour des grandes marques ou les marques de parfum. Mais pour tout ce qui se fait sur des marques un peu plus web, Focus Lab, c'est vraiment intéressant.
Super. Mais comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans la description. Sébastien, si quelqu'un veut te contacter, parler avec toi de branding, on les renvoie vers quelle plateforme ?
Je suis un peu de partout, alors ils vont avoir le choix. Ils tapent Sébastien Navizet sur Google et puis ils prennent la première qui leur va bien. Hein. Je suis sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, joignable de partout. Il n'y a que mes mails que je lis pas.
Bon, bah, très bien, comme ça, il y aura tous les liens dans la description. Sébastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi de branding, c'était hyper intéressant.
Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était trop cool, j'ai adoré l'exercice.
Super, et puis bah écoute, à très bientôt.
Ouais, à très bientôt, et puis j'ai hâte d'écouter les autres podcasts.
Yes.
Allez, à plus.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.